Kompass bringt fremde Kulturen ins Rübeland. Kompass, jetzt auf Kanal K.
Zusammen, wir sind live in der Sendung Fenster auf Afrika, eine afrikanische Politik und Kultursendung. Viel Vergnügen auf Radio Kanal K. Ich bin Sylvain Moos am Mikrofon. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Merci de choisir Radio Canal K en Suisse alémanique pour vous informer et bien évidemment dans son programme panafricain Fenêtre sur l'Afrique. Et bien également, bonsoir à tous nos auditeurs de Radio Légende FM à Lomé au Togo. Eh bien, un drame s'est abattu sur le Togo la semaine passée. Deux marchés, notamment celui de Kara et de Lomé, la capitale, ont pris feu et les marchandises se sont effondrées dans les flammes. Le gouvernement et l'opposition, chacun de son côté, accusent le camp adverse. À qui profitent réellement ces incendies et des marchés du Togo et quelles sont les actions que mène le gouvernement et aussi la diaspora pour venir en aide aux victimes de ces incendies? Ce sont des sujets qui feront l'objet de discussion avec nos invités, dont notamment Gilbert Bawara, ministre de l'administration territoriale, qui sera en ligne en direct depuis Lomé dans quelques instants. Également depuis Autriche, Vienne, nous aurons également Dr Yves Ekwe Amaizo, consultant international et coordinateur général du CVU Togo Diaspora. Il nous accompagnera également en direct depuis Vienne. Eh bien, Michel Pouléo, Romain Koudjodi, Josué Maoli, Esteban Gagnon, Lucien Nkanli, Fabio Kouassi constituent l'équipe de production. Moi, je m'appelle Sylvain Moos pour vous conduire jusqu'à 21h. Et oui, je vous rappelle que la deuxième partie dès 20h sera consacrée aussi à ce drame sur les incendies des marchés au Togo. Ce sera donc en langue mina. Merci d'être câblé sur le www.canalk.ch. Dans un instant, notre éditorial. Amis fidèles auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, nous joignons nos voix à celles des vôtres pour présenter toutes nos compassions à nos sœurs, mamans, amies revendeuses du grand marché de Kara et celui de Lomé. À vous qui êtes sous prêt, à vous qui avez contracté des dettes auprès des usuriers, à vous tous qui tous les jours que Dieu fait ne ménagez aucun effort pour nourrir, vertir et protéger vos enfants et maris, vous qui avez tout perdu, que l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, vous console et puisse essuyer vos larmes. Que la paix profonde puisse vous envahir et vous couvrir comme un grand manteau. Mais cependant, femmes togolaises, avant que vos pleurs ne deviennent désolation et calamité, il urge que l'État togolais puisse retrousser ses manches et demander au Suprême la sagesse du roi Salomon pour diligenter avec sagesse une enquête ô combien méticuleuse. S'agissant d'enquête, il faut avoir le courage de dire, oui, le courage de le clamer haut et fort, que parlant d'enquête, le pouvoir en place semble plutôt jouer au pyromane au lieu d'œuvrer pour la sagesse et d'être le garant de la protection du peuple togolais. Et oui, sans parti pris, il s'y est de dire avec clarté que la manière dont le pouvoir s'y prend nous donne l'impression de croire que la force veut prévaloir en lieu et place de la manifestation de la vérité. Car comment comprendre qu'à moins de 3 heures, l'immunité parlementaire d'un ancien premier ministre soit levée et que ce dernier soit maintenu à la gendarmerie, ne bénéficiant d'aucune présomption d'innocence, alors que l'on ne parle pas de flagrant délit. Qui plus est, au moment où l'État reconnaît même des limites et demande l'appui des experts en matière d'enquête, on arrête des citoyens. Faut-il le rappeler que l'acharnement semble être dévolu sur des femmes supposées proches du collectif Sauvons le Togo. Tout le peuple togolais se pose cette interrogation. Qui a mis le feu aux deux marchés du Togo et à qui profite ce drame? Pour notre part, nous osons croire que pour une fois, ce drame ne doit pas être mis du côté de la force pour brimer, avilir et contraindre les gens jusqu'à leur dernier retranchement. Tandis que de l'autre côté du décor, l'on semble accorder plutôt plus d'importance à des législatives hâtives dans le trimestre à venir. Le climat politique est malsain. La colère et la détresse se lisent dans les visages des citoyens. Organiser des élections législatives dans cette situation, c'est se moquer du peuple. Eh bien, finalement, encore une fois, sans parti pris, amis auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, posons-nous la question de savoir qui a intérêt à arrêter ou à décapiter la classe opposante tout en organisant des législatives biaisées sous les sans les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Entre le secteur informel, puissante composante de l'économie togolaise, et les législatives dont le calendrier est arrêté cette semaine, où certaines formations politiques sont sous les feux du projecteur ou presque écartées de la compétition, où est alors l'urgence? Encore une fois, à toutes les victimes des marchés de Kara et de Lomé, le peuple togolais, averti et pris de paix et de liberté, est avec vous. Mais les criminels diaboliques qui ont mis feu à vos marchandises, qu'ils sachent qu'un passage de la Bible dit ceci dans Ésaïe 33, verset 1, « Malheur au destructeur, quand tu auras fini de détruire, tu seras détruit à ton tour. Et les criminels verront le châtiment de la part de Dieu pour le crime. Que Dieu protège le Togo. »
FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
bien, vous êtes dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, comme annoncé en début de cette émission, nous allons débattre sur les incendies des marchés au Togo ces derniers temps. Eh bien, à qui profitent réellement ces incendies des marchés au Togo? Eh bien, pour ce débat, nous avons en ligne tout de suite en direct depuis Lomé Gilbert Bawara, ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, également depuis Vienne en Autriche, un membre influent de la diaspora togolaise, Dr Yves Ekoué-Amaïso, consultant international, coordinateur général du CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des unes. Eh bien, je remercie encore vivement nos invités qui sont déjà en ligne et je leur demande d'être quand même objectif pour ce débat, car le peuple a besoin de savoir ce qui se passe actuellement au Togo. Eh bien, la toute première question, comme Monsieur le ministre Gilbert Bawara est déjà en ligne depuis Lomé. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur le ministre. Allô? Ah, je pense que la ligne là, n'est pas bonne depuis Lomé, mais nous allons essayer de le contacter de nouveau. Mais tout de suite, nous pouvons soumettre la toute première question à mon invité également, qui est en ligne depuis Vienne, Dr Yves Ekoué-Amaïso. Bonsoir.
Bonsoir, Ramos.
Merci d'être l'invité de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, j'aimerais quand même souhaiter la toute première question à Monsieur Gilbert Bawara qui était en ligne. Mais le temps que je vous pose la première question, nous allons tenter de le joindre encore de nouveau. Alors, Gilbert Bawara, je l'annonçais, il est le ministre de l'administration territoriale. Docteur Yves Ekoué-Amaïso, vous venez d'être l'invité de Fenêtre sur l'Afrique. Vous connaissez bien cette émission. Il y a toute une série d'incendies à Lomé, au Togo, Dr Yves Ekoué-Amaïso. Alors, selon vous, comment en est-on arrivé là? Pensez-vous que la légitimité du pouvoir est en jeu?
Je crois que vous avez bien fait de poser la question de lier ces incendies à la légitimité du pouvoir en place. Il est vrai que tout pouvoir peut avoir des problèmes avec des groupes terroristes qui viennent détruire des marchés, le lieu où pratiquement tous les Togolais, je dis bien tous les Togolais, sont passés au moins une fois. Et c'est aussi le lieu de création de richesses pour une large partie de la population, notamment la plus pauvre. Ce sont des richesses qui permettent de vivre au jour le jour. Donc il est bien clair que celui qui s'attaque au marché veut détruire l'âme même du Togolais et de la Togolaise. À ce niveau, le premier constat qu'il faut quand même regretter, c'est que l'État togolais, et c'est pour ça qu'il faut écouter le représentant de l'État togolais, l'État togolais donc n'a pas été en mesure de ces marchés, des populations, des biens qui s'y trouvaient, et je ne crois pas avoir entendu que ce gouvernement va trouver un moyen par des systèmes d'assurance de rembourser ce qui était perdu, de reconstruire ce marché et surtout d'organiser un système de sécurité pour que ces choses ne se reproduisent plus.
Docteur Yves Ekoué-Amaïso, et pendant qu'on y est, on va quand même essayer de recontacter le ministre Bawara depuis Lomé, sûrement que la connexion n'est pas bonne. Alors pour vous, qui peut mettre le feu au marché de Kara et au marché de Lomé?
On ne peut jamais répondre à une telle question sans faire une enquête. Le problème du Togo, c'est qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui, qui portent sur des problèmes qui sont de près ou de loin liés à l'État, notamment à la défaillance de l'État, à l'impunité de cet État à sanctionner les fauteurs de troubles, notamment dans la population civile, a fait qu'il est toujours difficile d'avoir la réponse à qui a fait quoi, notamment quand il s'agit de crimes, quand il s'agit, dans le cas présent, d'incendies, et en fait, quand on détruit ce qui fait l'âme même du peuple togolais. Par contre, il y a un point très important, c'est qu'on est certain maintenant qu'il y a un certain nombre de collusions et d'incompréhensions entre ce qui se passe au niveau de la décision au sommet de l'État et des réalités. La vraie question, c'est de savoir qui a pu donner l'ordre que ça arrive et qui aussi a pu donner l'ordre que le feu ne soit pas éteint rapidement. Puisque nous avons l'information maintenant que les sapeurs-pompiers, ceux du Togo, ayant été impuissants à éteindre le feu, apparemment, n'ont pas fait d'entraînement depuis un certain nombre de temps, n'ont pas les équipements, n'ont pas l'argent, donc ils ne sont pas nécessairement à blâmer. Par contre, ceux du Ghana, et je remercie le gouvernement ghanéen d'avoir pu mettre à disposition les pompiers pour le Togo, ceux du Ghana, donc les pompiers du Ghana, ont apparemment, d'après nos informations, été bloqués suffisamment longtemps aux frontières togolaises, et du coup, qui a intérêt à empêcher les pompiers à éteindre l'incendie, en tout cas sur le marché de Lomé dans les temps. Voici des questions, il y en a beaucoup d'autres, mais nous sommes sur une radio, on n'a pas beaucoup le temps, et l'enquête pourrait déterminer cela.
Justement.
Allez-y.
Oui, justement, je ne vous ai pas coupé parce que tout à l'heure, nous avons réussi à joindre de nouveau le ministre Bawara. Je vais tout de suite profiter de cette occasion pour lui soumettre la toute première question que je devais normalement poser en première au ministre Bawara. Et bonsoir, monsieur le ministre.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Le réseau téléphonique dérange un petit peu à Lomé. J'espère que vous nous recevez à 100%, monsieur le ministre.
En tout cas, votre voix est très claire et j'espère qu'il en est de même de ma voix pour ce qui concerne vos auditeurs.
Justement. Justement. Alors, vous avez également, depuis Vienne en Autriche, Dr. Yves Ekouyamaizo, je vous pose rapidement la toute première question. Alors, monsieur le ministre, depuis les incendies qui ont ravagé les marchés de Kara et de Lomé, le gouvernement dit prendre des mesures pour venir en aide aux victimes. Et le peuple togolais a aussi constaté avec amertume et l'incapacité des sapeurs-pompiers togolais à éteindre le feu car ils sont sous-équipés. Alors, monsieur le ministre Bawara, comment expliquez-vous également ce manque de dialogue du président à l'endroit des femmes victimes de l'incendie?
Non, je voudrais vous dire que à l'occasion de cet incendie tragique qui sont véritablement un drame pour l'ensemble de la nation togolaise, de l'ensemble des Togolais, au-delà même des commerçantes et des commerçants qui sont touchés, qui sont affectés aussi bien à Kara qu'à Lomé, je ne crois pas que cette tragédie doive être l'occasion de déchirement et de polémique entre Togolais. Et donc, il n'y a pas de polémique à avoir. Quant à ce qui concerne les difficultés qu'ont pu rencontrer les sapeurs-pompiers pour éteindre les incendies, vous savez, dans la vie, c'est face à des situations difficiles, face à des drames qu'on se rend compte d'éventuelles défaillances et carences. Et naturellement, le gouvernement va veiller à prendre toutes les dispositions pour que, à l'avenir, les mêmes choses ne puissent pas se reproduire. Je ne crois pas que c'est une singularité togolaise par ailleurs. Vous voyez que dans la foulée, il y a eu également un grave incendie au Burkina Faso et c'est les mêmes difficultés et les mêmes défaillances qui ont été constatées. Et donc, il faut plutôt saluer le courage et l'engagement risqué des sapeurs-pompiers et également saluer l'aide qui a été apportée par les frères ghanéens. Maintenant, à propos du président de la République qui n'aurait pas établi un dialogue avec les femmes, je crois que c'est totalement inexact. Moi, j'étais aux premières heures avec le président de la République, aux côtés des femmes affectées. Il les a reçues, le gouvernement s'est mobilisé sur le terrain. Et à partir de ce moment-là, le souci a été, dans un premier temps, comment éteindre l'incendie. Ça a été fait. Dans un deuxième temps, créer les conditions pour écouter et soulager psychologiquement et moralement les femmes et les commerçants qui étaient touchés. Et en même temps, examiner avec eux, avec les groupes organisés des commerçantes et des commerçants, comment les solutions qui doivent être envisagées, que ce soit en direction des établissements bancaires et financiers, que ce soit en direction des structures de microfinance et de microcrédit, et en même temps aussi prendre les dispositions qui doivent permettre de sécuriser les endroits pour que les enquêtes puissent se dérouler et que les indices éventuels ne disparaissent pas. Voilà, le gouvernement est totalement mobilisé. Il est mobilisé comme le sont également d'être Togolais à titre individuel ou collectivement. Et
justement.
Je ne crois véritablement pas que ce soit une occasion
justement, oui.
de polémique et de déchirement.
Merci, Chibé Bawaha. Nous avons de l'autre côté, depuis Vienne en Autriche, Dr. Yves Kouyamaizo. Alors, Chibé Bawaha et le ministre Chibé Bawaha vient quand même d'accepter que les sapeurs-pompiers sont sous-équipés. Et une réaction de votre part par rapport à l'intervention du ministre Chibé Bawaha, Yves Kouyamaizo.
Merci beaucoup. Je salue d'abord monsieur le ministre. Et il n'y a pas lieu d'avoir de polémique, et ça, je crois qu'on peut être d'accord là-dessus. Par contre, il y a lieu d'avoir des interrogations. Il semble d'abord que le silence du gouvernement ait quand même beaucoup interrogé l'ensemble de la diaspora et un certain nombre de personnes au Togo. Et ce serait bien quand même que monsieur le ministre nous explique les bases et les fondements de cette défaillance d'abord de la sécurité, parce que c'est quand même ça le problème de fond, de ensuite de l'ensemble du manque d'entraînement, d'équipement et de moyens apparemment des services d'incendie du Togo, ce qui nous amène à aller demander aux voisins de venir, les Ghanéens, que je remercie au passage. Et troisièmement, apparemment, là encore, une autre défaillance, c'est que ces pompiers qui venaient du Ghana, monsieur le ministre pourra nous affirmer ou confirmer, ont été bloqués à la frontière, ce qui a pu retarder d'ailleurs leur intervention.
Merci, Dr. Yves Kouyamaizo. J'espère que le ministre Chibé Bawaha a suivi et les interventions également de Gilbert et de Yves Kouyamaizo. Effectivement, n'eût été l'aide des pompiers ghanéens, ceux du Togo n'auront pas pu éteindre le feu. Hein, car en réalité, vous-même, vous l'avez confirmé tout à l'heure, ils sont sous-équipés, Gilbert Bawaha.
Non, je crois que les pompiers ghanéens ont travaillé main dans la main avec ce Togolais. Je ne suis pas en mesure de vous dire que c'est la citerne d'un camion ghanéen qui a agi beaucoup plus efficacement que la citerne d'un pompier togolais. C'est vraiment ça l'esprit polémique que je dis, c'est pas nécessaire. Mais quand mon frère Yves Amaizo dit que les pompiers ont été retardés ou entravés, qui a fait appel aux pompiers si c'est pas le gouvernement? C'est le gouvernement qui a fait appel à eux, et quel intérêt aurait eu le gouvernement ou les forces de sécurité à entraver l'assistance qu'ils étaient en train de nous apporter? Au contraire, c'est parfois des populations riveraines ou un certain nombre de gens qui s'étaient agglutinés autour de l'incendie qui empêchaient et qui lançaient même les cailloux aux pompiers lorsqu'ils essayaient d'agir. Et ça aussi, il faut le regretter, au contraire. Donc, c'est pourquoi je dis il n'y a pas lieu de polémiquer. La défaillance sécuritaire, de quelle défaillance on parle? Nous sommes un pays paisible. Les Togolais sont des gens pacifiques. Même si, à la suite de l'incendie de Kara, on peut estimer qu'on aurait pu mettre un dispositif sécuritaire renforcé autour de Lomé, mais tout le monde, comme moi, estimait qu'éventuellement c'était un incendie accidentel à Kara. Et donc, il n'y avait pas lieu, tout en... J'ai vu la veille qu'il y avait quelques mesures, qu'il y avait une information, inspection des lieux. Donc, laissons les investigations et les enquêtes déterminer quelles sont les origines et les causes de ces incendies. Et sur cette base-là, on peut spéculer des mesures qui auraient pu être prises. Je ne crois pas à supposer que ces incendies soient volontaires et criminels, que c'est les mesures de sécurité qui auraient suffi. Il faut voir si quelqu'un a pu agir et brûler le marché de Kara et le marché de Lomé, c'est dire que c'était des gens avec une certaine détermination. Et que je ne veux pas lancer le caillou à tel ou tel, ni aux commerçantes et aux commerçants, en disant pourquoi ils avaient stocké autant de marchandises là-bas, ni aux forces de sécurité en estimant qu'ils avaient pris des mesures insuffisantes. C'est vrai, ces incendies ont révélé une insuffisance d'équipement. Comme dans la vie de tout le monde, c'est quand on se trouve face à une situation périlleuse qu'on se rend compte qu'on aurait dû faire plus preuve de prévention.
Merci.
Le gouvernement va en tirer tous les enseignements et faire en sorte que, tout en satisfaisant aux besoins des autres secteurs, on pourvoie aussi aux besoins des sapeurs-pompiers et dispose de plus de moyens en matière d'extinction des incendies.
Docteur Yves Kouyamaizo, vous avez une réaction?
Non, je crois qu'il faut laisser l'enquête faire son travail. Il serait bon que, quand l'enquête se passe, nous puissions s'assurer et avoir aussi la participation d'un certain nombre de partis de l'opposition ou en tout cas des forces alternatives pour s'assurer de la crédibilité, justement, de ces enquêtes et des résultats qui sortiront de ces enquêtes, puisque par comparaison, beaucoup d'enquêtes ont eu lieu au Togo, sur plusieurs sujets d'ailleurs, et nous avons toujours des difficultés pour avoir un résultat qui, disons, fasse au moins l'unanimité sur les conclusions.
Oui, et monsieur le ministre Gilbert Barara, effectivement, parlons d'enquête. Nous sommes informés qu'à la demande des autorités togolaises, deux agents et français de la police scientifique sont à Lomé pour enquêter sur les incendies qui ont ravagé les marchés. Est-ce que vous confirmez cette information? Est-ce que c'est déjà dans le cadre d'une enquête internationale, Gilbert Barara?
Pas dans le cadre d'une enquête internationale. Nous ne devons pas continuer à nous infantiliser. Il faut qu'on s'émancipe. Il est normal que dans ce genre de circonstances où les pays africains, y compris le Togo, peuvent manquer d'expertise, pour éviter de bâcler l'enquête, qu'on fasse appel à la solidarité et à la coopération. Et c'est dans ce sens-là que l'enquête ayant commencé à travers les forces de sécurité togolaises, notamment la gendarmerie, il s'est avéré nécessaire de s'appuyer sur une expertise étrangère qui, en la matière, pour pouvoir avoir justement des enquêtes dont les résultats soient crédibles et incontestables. Donc voilà pourquoi on a fait appel aux Français qui sont déjà arrivés et qui sont à pied d'œuvre aux côtés de leurs homologues togolais pour élucider les circonstances et les causes de ces sinistres tragédiques.
Et justement, et s'agissant d'enquête, le gouvernement semble jeter quand même son dévolu sur les responsables du collectif, souvent le Togo. Alors pourquoi interpeller par exemple Agbemi Kodjo et son vice-président Gira Adja avant de confier maintenant l'enquête aux services français?
Non, vous savez, quel serait l'intérêt du gouvernement à jeter son dévolu sur des acteurs politiques? Je dis tout simplement, c'est sur la base d'éléments préliminaires qui ont conduit à l'interpellation de M. Gira Adja et de M. Agbemi Kodjo. Et il faut espérer que l'enquête à leur égard se situe dans le cadre de la loi, qu'ils puissent jurer d'une défense appropriée et que si le besoin de l'enquête ne justifie pas qu'ils soient détenus, qu'ils soient libérés. Donc, comme dans tous les pays, lorsqu'il y a une procédure qui pourrait conduire à l'inculpation de certaines personnes, il peut être normal qu'on interpelle des gens pour pousser les investigations. Donc, c'est dans cet esprit-là que les deux personnalités ont été interpellées.
Merci. Nous allons également demander l'avis du docteur Yves Kouyamaezo sur ces interpellations des membres du collectif Sauvons le Togo. Docteur Yves Kouyamaezo, c'est quand même étonnant. À moins de 3 heures, l'immunité parlementaire d'Agbemi Kodjo a été levée. Hein. Il est donc vite interpellé avant que l'enquête soit maintenant confiée au service français. Quel est votre commentaire, docteur Yves Kouyamaezo?
Je me place sur ce que dit Monsieur le ministre. Le Monsieur le ministre a dit que le Togo a des procédures. Je sais qu'en droit, il y a 3 niveaux. Il y a la forme, il y a la procédure et il y a le fond. Sur la forme, Monsieur Agbemi Kodjo, ainsi que d'autres personnes, d'après ce que nous avons entendu, étaient plutôt dans leur domicile privé, une propriété privée. Donc, si des agents de la sécurité sont rentrés chez eux sans mandat et en mettant de côté la présomption d'innocence, il n'y a pas respect des formes, il n'y a pas respect des procédures du droit. Quant au fond, on le laissera à la justice. Il n'empêche que les deux personnes citées et d'autres, puisqu'il y a eu des personnes du parti de M. Goguet et d'autres ailleurs, ont aussi été interpellées, apparemment sans mandat. Donc il n'y a pas respect des procédures au Togo. Il faudrait que le ministre nous explique cela. Et est-ce qu'il y a encore en fait un respect de la propriété privée, puisque le Togo, d'après ce que je crois comprendre, a plutôt une orientation libérale. La seconde, c'est que si on devait même garder les gens en quelques jours, ce qui est normal, si on l'interpelle en flagrant délit par exemple ou sur la voie publique. Mais là, on ne sait toujours pas la raison pour laquelle les deux personnes citées de haut but sont ou peut-être encore en prison ou pas. Si le ministre peut nous éclairer la raison réelle, parce que si c'est lié à l'incendie, alors que l'enquête n'a pas encore été faite, donc la présomption d'innocence n'est pas respectée, et donc on met donc quelqu'un en prison parce que tout simplement le pouvoir togolais pense que ces personnes ont mis le feu au marché. Donc il y a bien un problème et on aimerait bien que le ministre nous explique cela.
Merci docteur Yves Kouermaizo. J'espère que le ministre Gilbert Barra vous a bien suivi. Et Gilbert Barra, vous avez une explication à apporter à ce que vient d'affirmer docteur Yves Kouermaizo depuis Vienne en Autriche.
C'est ça. Je voudrais d'abord faire une distinction que le cas du responsable de Adi, de Aimé Gogué, qui avait été arrêté, n'a rien à voir avec l'interpellation de M. Agbemé Kodjo et de Mira Adia. La première interpellation était à l'occasion d'une manifestation illégale et qui ne devait pas avoir lieu. Et dès le lendemain, il avait été libéré. Tandis que l'interpellation de M. Agbemé Kodjo et de M. Mira Adia sont liées aux incendies. Jusqu'à preuve du contraire, les deux personnalités jouissent de la présomption d'innocence. Ils n'ont pas été condamnés. Donc, je ne crois pas qu'il faut parler d'une violation quelconque de la présomption d'innocence. En revanche, la procédure et les besoins de l'enquête ont conduit à leur interpellation. Et pour interpeller M. Agbemé Kodjo, qui jouit de l'immunité, l'Assemblée nationale a levé son immunité. Donc, je ne vois pas où se trouve la violation de la présomption d'innocence. Je dis tout simplement, comme M. Amaizo, qu'il faut laisser l'enquête avoir lieu de manière sereine, indépendante et objective, que cela permette d'élucider et d'éclairer les Togolais sur les circonstances et les responsabilités éventuelles de ces drames que notre pays a vécu, notamment à Kara et à Lomé. Et c'est sur cette base-là on pourra juger si la procédure a été en totalité respectée, si certains seraient coupables ou non. À ce stade-là, il s'agit d'enquête. Et pour les besoins de l'enquête, deux personnes ont été interpellées, éventuellement d'autres personnes, mais c'est dans le respect strict des procédures pénales et de leur droit à une défense et du respect également de la présomption d'innocence dont ils jouissent.
Merci. Docteur Yves Kouermaizo, est-ce que le ministre Gilbert Barra vous a convaincu?
Non, parce que s'il y a présomption d'innocence, les personnes doivent être libres de leur mouvement. Leurs avocats peuvent absolument se présenter et défendre, apporter les éléments nécessaires à l'avancement de l'enquête. Et si nécessaire, alors oui, on peut les amener devant les juges et c'est la procédure la plus normale. Mais il y a un autre élément que M. le ministre n'a pas détaillé. C'est la façon dont les forces de l'ordre sont rentrées dans la maison de M. Agbemé Kodjo, la façon dont ils ont interpellé M. Agbemé Kodjo et surtout molesté un certain nombre de ses enfants et membres de sa famille. Et je ne pense pas que cela fasse partie de la procédure la plus noble qu'il y a pour demander à quelqu'un de venir s'expliquer, quels que soient les motifs d'ailleurs pour lesquels on l'interpelle.
Eh bien, avant de continuer ce débat, nous vous rappelons que nous sommes également informés et qu'on aurait appris et que le président d'Obu, Agbemé Kodjo, est libéré. Mais malheureusement, non. Nous avons contacté il y a environ 10 minutes avant cette émission, nous avons contacté sa fille aînée qui nous a confirmé que M. Agbemé Kodjo est toujours gardé à la gendarmerie. Alors, nous allons quand même quitter, pas trop polémiquer sur l'arrestation de Agbemé Kodjo et de son vice-président. Et nous allons quand même continuer ce débat. Monsieur le ministre Gilbert Barra, le climat politique au Togo est très malsain, ça tout le monde le sait. Alors vient s'ajouter ce drame, l'incendie des marchés qui met tout le peuple togolais dans une détresse totale. Alors pourquoi depuis 22 ans de démocratisation au Togo, Gilbert Barra, jamais d'élection locale et encore cette fois-ci rapidement, silence total sur les locales et cap sur les législatives, Gilbert Barra?
Non, je vais revenir d'un seul mot à propos des détentions.
Justement.
Sincèrement, oui. Moi, je suis juriste. Donc, il n'y a aucun lien entre la détention préventive et la présomption d'innocence. M. Agbemé Kodjo n'a pas été jugé et condamné. S'il était jugé et condamné sans raison, on pourrait parler de la violation de la présomption d'innocence. Je voulais également profiter pour informer que M. Agbemé a accès à une défense, qu'il a constitué des gens pour le défendre et que ces personnes-là, ces avocats, ont accès à lui. Et donc, il n'y a pas de raison d'imaginer qu'il ne jouira pas de tous les droits que tout citoyen doit pouvoir bénéficier dans ce genre de circonstances. Maintenant, à propos des élections, c'est vrai, vous avez raison. Je suis de ceux qui estiment qu'il faut mettre un accent particulier sur les élections locales, parce que cela a au moins trois vertus. La première vertu, c'est d'amener les populations à être acteurs du développement, à s'impliquer à la fois dans l'élaboration des projets qui les concernent, à participer à leur mise en œuvre et à être informés pleinement de toutes les actions qui sont menées en leur faveur. La deuxième vertu, c'est que la démocratie, à la base, peut aider à dépassionner certains débats au niveau national et que si les populations, au niveau de la base, sont en mesure de délibérer sur certaines questions, de débattre sur certaines questions, on apprend à mieux travailler ensemble, on apprend aussi les vertus de la démocratie et cela est extrêmement important. Et en fin de compte, aujourd'hui, la coopération décentralisée ne peut se déployer que si les responsables locaux, notamment les maires, les présidents de délégations spéciales, jouissent de la légitimité et de l'autorité politique nécessaire. Or, ces maires et ces présidents de délégations spéciales, étant désignés par le gouvernement, ils ne jouissent pas de cette légitimité directe que confère l'élection. Et donc, il faut nécessairement aller rapidement aux élections. Et il est dans l'intention du gouvernement d'organiser
dans les conditions actuelles, vous pensez?
Oui. Mais écoutez, je vous invite à passer au pays pour voir que. Et parfois, à travers les médias, on a le sentiment que notre pays serait assez à soi, ce n'est pas le cas.
Merci.
Et ce matin, j'ai appris, il y avait deux manifestations. D'un côté, le collectif Sauvons le Togo
justement.
Et l'ANC PAC qui manifestaient dans un bout de la ville et une autre manifestation dans un autre bout de la ville. Ça s'est passé de manière conviviale, il n'y a pas eu d'incident quelconque.
Justement. Merci.
Et donc, c'est vrai, il y a ces drames-là, il y a ces incompréhension à propos des dialogues. Mais je crois que les blocages en ce qui concerne le dialogue s'expliquent davantage par la stratégie d'obstruction et la volonté de certains d'installer un climat de pourrissement et d'agitation.
Jibé Bawara, bien que le redécoupage n'est pas accepté par tous, vous allez quand même organiser les élections, c'est ça?
Mélanger les élections locales concernent à la fois les communes et les préfectures. Donc, les communes, il s'agit d'élire les conseillers municipaux.
Merci.
Et les préfectures, les conseils de préfecture. Les découpages auxquels vous faites référence concernent les découpages pour les élections législatives. Et il y a eu un certain nombre d'initiatives et de propositions. Et c'est un sujet qui continue à être débattu et nous espérons que
justement,
on viendra à un consensus.
Exactement. Nous allons poser la même question au docteur Yves Ekuyamaizo en direct depuis Vienne. Docteur Yves Ekuyamaizo, j'espère que vous avez suivi le développement du ministre de la Division territoriale, Jibé Bawara. Est-ce que vous croyez vraiment que dans cette condition, le Togo est prêt pour les législatives prochaines, docteur Yves Ekuyamaizo?
Vous savez, tout d'abord, il y a un retard dans le calendrier. Et je crois que là-dessus, on doit pouvoir être d'accord avec Monsieur le ministre que le calendrier normal des élections au Togo n'est pas respecté. Quelle que soit la faute ou les responsabilités, soyons au moins d'accord là-dessus. La deuxième chose, nous sommes tous d'accord que pour faire émerger la vérité des urnes, ce sont les élections communales qui permettent d'avoir une vision du paysage politique togolais la plus intéressante et la plus large possible. Mais le gouvernement qui est là a systématiquement soit empêché, soit retardé les élections communales. Nous sommes maintenant en situation pratiquement d'urgence d'aller vers des élections législatives au mois de mars, d'après ce que j'ai entendu, et on veut nous faire croire qu'il s'agit de la démocratie. Alors, sous couvert d'éléments, disons, malheureux, les derniers en date étant les marchés qui ont brûlé, il semble qu'on cherche malgré tout à neutraliser une partie des forces d'opposition ou de l'alternance pour qu'ils ne puissent pas s'organiser pour aller aux élections librement dans les bonnes conditions. Le deuxième élément très important là-dedans, c'est le recensement. Il faut bien qu'on sache qui va voter. À ce propos, le ministre de l'administration du territoire que vous êtes, monsieur le ministre, je voudrais vous demander publiquement où est la diaspora. Il semble que vous ne nous avez pas recensés. Donc la diaspora togolaise, sommes-nous des fantômes? Le deuxième et le troisième élément qui est lié à cela, si nous ne sommes pas recensés, nous ne sommes pas sur les listes. Nous ne pourrons donc pas voter. Nous ne pourrons même pas participer au communal. Pourtant, 330 millions nous envoyons chaque année pour soutenir nos parents, nos amis, le Togo, les populations, justement parce que ce gouvernement n'a pas pu améliorer le niveau de création de richesses dans le pays et donc la pauvreté a augmenté. Un dernier point qui me tient à cœur, c'est qu'on apprend aussi que les nationalités sont un peu délivrées au cas par cas ou les passeports au cas par cas, que les nationalités sont enlevées pour des gens qui pourraient déranger juste le moment ou le passage pour faire les élections, quitte à leur redonner par la suite. Et je voudrais conclure pour qu'on puisse voir la dimension géostratégique. Est-ce que c'est pour éviter que le Togo ne soit, disons, mis à l'index, notamment par François Hollande de la France, que le Togo, bien sûr dans le cadre de la CEDEAO, envoie rapidement des soldats au Mali pour qu'enfin on oublie tout ce qui se passe, qui sont des abus malgré tout.
On va revenir là-dessus, docteur Yves Kouamaiso. Merci beaucoup, parlant toujours de l'élection législative au Togo. Et monsieur le ministre Bawara, le projet de décentralisation amorcé depuis 2003 n'a pas abouti, et ça c'est un constat qui est fait. Hein. Alors sur quelle base les locales vont-elles être organisées, Gilbert Bawara?
Non, j'ai l'impression que mon frère Amaïzo veut débattre de toutes les questions en même temps, y compris du déploiement du contingent togolais. Et à cet égard, je voudrais quand même informer vos auditeurs et M. Amaïzo que depuis des mois, le Togo était un des pays, après le Nigeria, qui devait envoyer un contingent plus important, pratiquement 2 bataillons. Et que, compte tenu de l'engouement ou de la solidarité que manifeste beaucoup de peuples africains, le nombre du contingent togolais a été réduit. Et vous savez, ce qui se passe au Mali ne concerne pas que le Mali, ça ne concerne pas que l'Europe. Ça pourrait affecter et avoir des conséquences néfastes sur l'ensemble de nos pays. Et donc, il y a une nécessité, dans ce contexte-là, de montrer une solidarité active et de ne pas rester de côté en disant que pour des raisons d'impératif de sécurité nationale, on ne peut pas agir au Mali. Concernant les élections, et M. Ivo Amaïzo parle des Togolais de la diaspora, je crois que le gouvernement est dans le même état d'esprit et qu'il faut commencer à prendre les dispositions qui permettraient à terme l'implication des Togolais dans les processus électoraux. Mais pour cela, il faut commencer à identifier combien de Togolais à l'étranger acceptent ou sont enregistrés auprès des ambassades dont ils relèvent. Très peu. Et donc, il faut qu'à un moment donné, on adopte le principe que les Togolais de l'extérieur qui apportent une contribution méritoire à l'économie, qui soutiennent les familles, qui investissent dans notre pays, doivent être des citoyens actifs, y compris sur le plan politique et donc en votant. Mais pour cela, cela nécessite un certain nombre de moyens et de capacités qui ne peuvent pas être mobilisés du jour au lendemain. C'est une question de volonté. Le gouvernement a cette volonté et s'engage dans cet esprit, mais ce n'est pas quelque chose qui se réalisera du jour au lendemain. Maintenant, pour ce qui concerne, je ne veux vraiment pas chercher à politiser ou à instrumentaliser l'histoire des incendies. Quand M. Amaïzo pense que le gouvernement chercherait à décapiter l'opposition ou à persécuter certaines personnalités, je voudrais le rassurer que telle n'est pas l'intention du gouvernement. Nous ne pouvons pas, au motif de ménager l'opposition, éviter de prendre les dispositions qu'impose une enquête. Et qui est une enquête qui doit être rigoureuse, qui doit être indépendante et objective, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, nous allons dans un esprit d'ouverture de dialogue. Mais quand M. Amaïzo dit que le gouvernement ne veut pas le dialogue, j'ai envie de lui dire de quel dialogue il parle. Depuis 2010, combien ont été les initiatives prises par le président de la République et le gouvernement invitant à des dialogues? Des dialogues qui ont été bloqués, qui ont été obstrués. avec des préalables inconsidérés. Et même les partenaires aujourd'hui sont fatigués par cette opposition. Alors que nous, nous disons, quand on se met autour d'une table, on peut avoir des divergences.
Monsieur le ministre Chibet Bawara,
il faut chercher des consensus et des compromis.
Justement, parlant de dialogue.
Avant de venir à la table de négociation, il y a un certain nombre de préalables à lever. C'est ça qui fait que le dialogue n'a pas avancé, mais pour autant, l'amélioration du cadre électoral est intervenue en tenant compte des opinions et des points de vue de l'opposition. Et nous allons continuer jusqu'au dernier.
Nous allons également. Merci, monsieur le ministre Chibet Bawara. Je ne vous ai pas coupé. Effectivement, parlant de dialogue, nous allons relancer également Dr. Yves Ekoué Amaïzo. Les élections au Togo, il y a aussi la diaspora, il y a aussi les Togolais qui sont au Togo actuellement. Il y a pas que la diaspora. Les villages n'ont pas été aussi transformés en communes rurales. Alors, comment savoir quel village devient commune? C'est aussi la grande question que se posent beaucoup de Togolais. Mais je pense que Dr. Yves Ekoué Amaïzo a quand même des réactions. Dr. Yves Ekoué Amaïzo, depuis Vienne.
Pas polémiquer, j'essaie que les choses aillent mieux. Je pense que sur ce point, on a les mêmes objectifs avec M. le ministre. Mais la liste électorale, quelle qu'elle soit, aujourd'hui, n'est pas consensuelle. Et en tout cas, la diaspora n'est pas dessus. Quand le ministre nous dit qu'il va faire ça plus tard, je vous rappelle que je suis économiste et que Keynes nous a dit qu'à long terme, nous serons tous morts. Donc si c'est le plus tard, c'est quand nous serons tous morts que la diaspora sera sur la liste électorale, sincèrement, je crois que ce n'est pas très sérieux. La deuxième chose qui pose problème, quand monsieur le ministre parle de dialogue, nous avons analysé les différents dialogues. Quand vous regardez bien ce qui se passe, c'est toujours la position du pouvoir en place qui émerge et qui est imposée. Il s'agit donc pas de dialogue, mais de monologue. À partir du moment où vous avez des monologues, vous êtes dans une position où les partis qui pourraient discuter refusent la discussion. Je ne suis dans aucun de ces partis. Et je constate seulement que s'il y avait une réelle ouverture de dialogue, c'est-à-dire une situation...
Allô?
Qui veut pas dialoguer? Allô?
Oui, je vous reçois. J'espère que la communication a dérangé un petit peu, mais allez-y, continuez.
Oui, je pense que c'était la ligne aussi. Donc je dis simplement que pour le deuxième point, il faut quand même enlever le mot dialogue parce qu'il s'agit bien de monologue. Et le tout dernier, c'est la notion de pression discrète, soit de la France, soit des pays occidentaux. On voudrait entendre le ministre là-dessus. Parce que quand même, le fait de commencer petit à petit à mettre un peu d'eau dans le vin, comme on dit, pour essayer de faire en sorte de dire qu'on ne dérange pas les responsables de l'opposition, qu'on n'est pas venu les voir dans leur maison pour les mettre sous enquête, au fond, est-ce que ce ne sont pas les pressions discrètes qui viennent de l'étranger qui amènent à cela? Bien sûr, la réponse est évidente, le Togo est indépendant, le Togo fait ce qu'il veut, et il n'empêche que quand les pressions viennent, quand les députés français et européens sont pris et sont informés qu'on a mis des opposants, des anciens premiers ministres, en prison, ou qu'on est en train de les interroger alors que le motif n'est pas exact ou clair, et qu'en plus, on nous dit que c'est pour... un errant, alors on peut se poser la question, quel est l'objectif réel recherché? Ne s'agit-il pas pour le gouvernement de mettre une situation difficile, un État pratiquement en siège, au fond, pour permettre de justifier justement le rôle sécuritaire qui, bien sûr, va neutraliser, affaiblir les partis pour qu'on ait des élections transparentes, pour sortir, émerger la vérité des urnes dans ce pays.
Merci, docteur Yves Ekoué Amaïzo, pour vos développements sur les élections législatives au Togo. Eh bien, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce débat. Nous discutons du thème à qui profitent réellement les incendies des marchés au Togo. Eh bien, dans ce débat, nous avons en direct depuis Lomé Gilbert Bawara, ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales. En direct depuis Vienne, Dr. Yves Ekoué Amaïzo, consultant international également, coordinateur général du CVU collectif pour la vérité des urnes, CVU Togo Diaspora. Eh bien, pour la toute dernière question, avant de laisser également le ministre Gilbert Bawara réagir par rapport à l'intervention du docteur Yves Ekoué Amaïzo, alors pour revenir aux mesures d'aide aux victimes de ces incendies, alors que compte
fait concrètement le gouvernement et comment évaluez-vous leur efficacité sur les victimes? Est-ce que vous avez pu répertorier tous les commerçants, commerçantes qui paient les tickets auprès de l'EPAM, Gilbert Bawara?
Oui, non, le processus est en cours. Il y a deux guichets qui ont été ouverts, un guichet à Kara et un guichet à Lomé. La procédure de recensement et d'identification des personnes sinistrées, notamment des commerçantes et des commerçants, est en cours. Et cela se passe bien. Le gouvernement a déjà annoncé que les deux marchés, les deux bâtiments qui ont été les plus ravagés seront totalement détruits et reconstruits. Et donc le gouvernement le fera sur ses propres moyens. Et le gouvernement a également déjà réuni les établissements financiers et bancaires et les structures de microfinance pour voir toutes les facilités qui peuvent être accordées à ceux des commerçantes et des commerçants qui avaient des crédits ou qui avaient des créances pour faciliter la relance de leurs activités. En attendant, nous sommes également en train d'aménager des emplacements provisoires pour que les activités puissent commerciales puissent continuer, puissent reprendre et être relancées. Et donc, je voudrais dire qu'il y a une mobilisation totale et il y a aussi un élan de solidarité et de mobilisation de la société togolaise dans son ensemble. Donc, c'est pas seulement le gouvernement.
Bien sûr.
Maintenant, pour ce qui, je voudrais dire deux mots, juste par rapport aux déclarations de M. Amaïzo.
Deux minutes.
La première, c'est de dire que nous allons procéder à une refonte du fichier électoral. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucun fichier électoral. Et ça, ça a été d'ailleurs une demande de nos frères de l'opposition. Donc, nous espérons que chacun va se mobiliser sur le terrain pour mobiliser ses militants et mobiliser l'ensemble des Togolais en âge de voter pour qu'ils aillent se faire enrôler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous devons agir dans l'intérêt du Togo et des Togolais et non pas parce que des partenaires ou des puissances étrangères sont là pour nous dire que telle chose est bonne ou mauvaise. Les droits de l'homme doivent être respectés parce que des Togolais doivent mériter la même dignité que les autres peuples. Les libertés doivent être préservées et protégées parce que les Togolais sont des êtres humains qui doivent aussi pouvoir s'exprimer, jouir des droits fondamentaux et qui sont inhérents à la personne humaine. C'est fini, c'est révolu cette période où on devait s'attendre à ce qu'il y ait une pression de Paris, de Washington ou des Nations Unies. Monsieur Amaïzo, moi je n'ai pas eu la chance de le croiser, je viens du système des Nations Unies, mais je ne suis pas quand même le ministre qu'un ambassadeur, je ne sais pas de quelle nature, viendrait me dire ce que je dois faire.
Merci.
Nous devons être conscients des défis de notre pays.
Merci, monsieur le ministre.
La population togolaise.
Merci.
Et chercher à y répondre.
Merci.
Sans qu'on ait besoin d'intervention ou de pression extérieure pour pouvoir agir.
Merci beaucoup. Docteur Yves Ekouyamaïzo, quel sera votre dernier mot dans ce débat que nous sommes en train de faire sur Radio Canalca dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique?
Bon, je voudrais d'abord remercier Monsieur le ministre d'avoir eu des échanges qu'on peut traiter de cordure, hein, parce que finalement, cette difficulté à s'échanger sur le terrain apparemment se fait mieux par radio. Par contre, je voudrais qu'on finisse sur une note qui nous pose problème, nous, dans la diaspora, et qui peut aussi et doit interpeller le gouvernement. Nous avons appris qu'il y aurait des éléments togolais, donc des individus togolais, parmi les Mujao, qui sont une de ces forces d'Al-Qaïda au niveau du Mali, et que ces gens sont en train de se déployer dans l'ensemble de la sous-région. On a parlé du Nigeria, on a parlé du Bénin, on a parlé du Togo. Donc, compte tenu du niveau de sécurité déjà des marchés togolais, et compte tenu de la volonté du gouvernement d'améliorer, de renforcer cette sécurité, je voudrais faire le vœu que la sécurité togolaise soit d'abord destiné pour éviter des attentats au Togo, voire dans la sous-région, et je crois que le gouvernement est fermement orienté vers cela, mais que ces forces qui sont utilisées ne se retournent pas contre des agents qui se battent pour la démocratie, la vérité des urnes au Togo.
Merci, merci beaucoup, docteur Yves Ekouyamaïzo, consultant international, coordinateur général du CVU Togo collectif pour la vérité des urnes, CVU Togo Diaspora, également au ministre Gilbert Bawara, ministre de la Administration Territoriale des Collectivités Locales. Encore une fois, Gilbert Bawara, merci et bonsoir depuis Lomé.
Merci. Bonsoir à vos auditeurs et merci aussi à M. Yves Amaïdo. Et je crois qu'en réalité, les Togolais sont capables de dépassement. Ils sont capables de mettre leurs énergies ensemble à condition de le vouloir.
C'est merci.
Ce que nous essayons de faire au Togo et nous espérons que cela va aboutir.
Merci et bonne soirée.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos.
VRA, Voix de la Résistance Africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Bien, merci de votre fidélité dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. J'espère que mes invités qui feront avec moi l'émission, la deuxième partie de l'émission à Milan, sont également au studio. Mais bien avant de clôturer cette émission, j'espère qu'ils ont bien suivi le débat avec entre le ministre de l'administration territoriale et de la collectivité locale, Gilbert Bawara, et Dr. Yves Kouamaïzo. Tout de suite, Franck Agbeponou, vous avez quelques mots aussi. Hein. Vous avez une minute.
Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup, les étudiants de Radio Canal K. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le débat entre le ministre Gilbert Bawara et Dr. Yves Kouamaïzo. Moi, je note deux choses. La première, c'est que la première, c'est que les incendies au Togo, effectivement, on ne sait pas exactement ceux qui sont les auteurs de cet incendie. Mais le ministre nous dit que la manière dont on a arrêté Agbeyome Kodjo et son vice-président Gérard Adja, que ça ne procède pas d'une vice de procédure. Je suis vraiment étonné, et d'autant plus que c'est quand même un ministre de l'administration territoriale. Il doit quand même savoir que s'il nous dit qu'il y a des enquêtes qui sont déjà lancées, il nous paraît un peu flou la manière dont ces deux responsables de partis politiques ont été arrêtés. Et la deuxième chose, c'est par rapport aux élections. Il nous dit aussi que le fichier électoral n'est pas encore prêt, mais force est de constater que la date des élections a été déjà programmée.
Malheureusement, le temps est contre nous rapidement. Une minute à Koshuavi de l'ADEM. Si vous avez une réaction, de toute façon, on va continuer cette émission à Milan et les débats peuvent encore continuer à Milan. À Koshuavi de l'ADEM, merci et bonsoir et merci d'être au studio de Radio Canal K.
Bonsoir le Togo, bonsoir Sylvain Amos. Nous étions là, nous avons suivi le débat. Je voudrais d'abord remercier le monsieur le ministre Bawara d'avoir reconnu les Togolais comme des êtres humains et que le Togolais en tant qu'être humain a aussi droit à ses droits. Merci monsieur le ministre. Secondo, et monsieur le ministre nous disait également que il y a des enquêtes préliminaires qui sont en cours et qu'il y aura des bases préliminaires. On ne sait pas encore pourquoi Agbeyome est arrêté, il y a rien, mais quand même il est arrêté à la gendarmerie, il est à la gendarmerie ou je ne sais pas où. Et puis, monsieur le ministre nous disait également qu'il y a eu des manifestations à Lomé, que trois manifestations a lieu à Lomé dans différents endroits de Lomé. Mais quand même, moi, je voudrais juste confirmer qu'il y aura des législations. Il voudrait dire que tout se passe bien au Togo. À mon avis, c'est pas le cas, parce que tant qu'il y a des manifestations, c'est dire qu'il y a des choses, qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il voudrait, Il voudrait nous faire croire que tout va bien au Togo.
Je pense que je lui ai quand même posé la question, est-ce que c'est dans ces conditions-là et que les Togolais iront quand même
aux élections.
Franck Abbeponne, 30 secondes.
Oui, effectivement, je pense que le ministre de l'administration territoriale ne regarde pas avec un bon oeil tout ce qui se passe au Togo. Et s'il y a des manifestations publiques, tous les jours, c'est que le Togo ne va pas bien.
Le Togo va mal. Voilà. Merci quand même. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Merci également à nos auditeurs qui nous ont suivis dans la toute première partie de cette émission. Nous allons toujours continuer dans quelques minutes. La deuxième partie sera consacrée à Milan. Merci de rester toujours câblé en direct sur le www.canalk.ch.